pas, comme dans les autres arts, une connaissance suffisante de l'histoire de la danse.
Pendant le festival Montpellier Danse,
saut de bichet entre chats,
chorégraphes, danseurs et festivaliers sont sur Divergence.
C'est là qu'il y a les plus profondes chances de créativité.
Divergence.
Je crois que les gens doivent se servir de la danse pour exprimer leurs propres idées.
Les grands noms de la danse acceptent de se produire.
Dominique Bagué,
Philippe Découffé,
Montpellier Danse,
Pina Bausch,
Maggie Marin,
Raymond Hogue,
William Forsythe.
Mais j'ajouterai ceci.
On voit ce qu'est vraiment la danse.
Attitude, énergie, fluidité, écoulement, équilibre, spirale, courbe, arabesque, sensation.
Si le hip-hop est né sur le bitume new-yorkais dans les années 70, il a depuis longtemps conquis la planète de Séoul en passant par Taïwan ou Paris. Il est d'ailleurs bien représenté en France, que ça soit musicalement et dans la danse, avec une troupe comme les Vagabonds, par exemple, qui ont remporté en 2011 la finale du Battle of the Year, le Graal du danseur hip-hop. En regard de cet aspect commercial ou sportif qu'est le battle, ou même les exploits des danseurs de hip-hop que l'on peut croiser au coin d'une rue et qui improvisent un show, il y a en France deux chorégraphes qui dirigent un centre chorégraphique national, Kader Atou à La Rochelle et Mourad Merzouki à Créteil. Ils ont à peu près la même histoire, ils découvrent le cirque puis le hip-hop à la télé avec l'émission de Sydney dans les années 80, se décident avec d'autres à fonder une compagnie et à faire de cette danse urbaine un langage chorégraphique à part entière. Né à Lyon, Mourad Merzouki est un enfant du hip-hop, du cirque et de la boxe, un mélange qu'il a porté depuis 20 ans maintenant à faire des tournées mondiales en proposant, dans ses pièces, un hip-hop qui se frotte à la danse contemporaine. Sa dernière pièce, Yo Jiti, présentée à Montpellier Danse, en est l'illustration, puisqu'il y rassemble des danseurs hip-hop français avec des danseurs taïwanais venus du classique ou du contemporain. Un pari qui a toujours été osé, puisque pour certains, la danse hip-hop, c'est à peine de la danse. Nous avons pu rencontrer Mourad Merzouki sur la terrasse de l'Agora Cité de la Danse à Montpellier, un matin où soufflait une légère brise. Nous avons parlé de son enfance entre danse et arts martiaux et du regard de son père qui aurait préféré le voir seulement boxeur. Nous avons aussi parlé de ce qui anime ce jeune chorégraphe qui va porter l'exemple français à travers le monde. On peut l'admettre, il y a peu de pays où l'on voit le hip-hop dans un théâtre. Cerise sur le gâteau, le public répond présent. Il suffit d'écouter, par exemple, les applaudissements et le retour public d'une de ses dernières créations avec des danseurs brésiliens cette fois, et également présentée à Montpellier Danse, Cafig Brasil.
C'était beau à voir et à entendre aussi, et c'était super. C'était vivant et c'était jeune, c'était frais en fait, voilà.
Moi j'ai adoré ce spectacle, c'était vraiment très bien, très très bien, du début jusqu'à la fin.
Je l'ai trouvé énergique, dynamique, heureux et qu'ils arrivent à transmettre tout ça, c'est fabuleux. J'avais envie de danser, ma voisine avait envie de danser, on avait envie d'être sur scène avec eux.
Alors je suis Mourad Merzouki, je suis danseur d'abord, chorégraphe ensuite et directeur du Centre chorégraphique national de Créteil, compagnie Cafig.
Vous venez de Lyon, vous êtes né à Saint-Priest, c'est bien ça. Comment ça s'est passé, la découverte du hip-hop ? Vous étiez dans le quartier qu'il fallait ? Vous étiez dans le milieu qu'il fallait ?
Alors je suis né à Lyon, mais c'est bien connu, Lyon est la capitale de la danse, donc certainement que ça a aidé, c'est-à-dire que j'ai fait des belles rencontres. Alors d'abord, le hip-hop, ça s'est fait presque naturellement. J'ai grandi dans un quartier, donc à Saint-Priest, effectivement. J'étais dans une école de cirque, j'étais passionné par le spectacle vivant, j'adorais le spectacle tout court, grâce à tout ce que j'apprenais en tant qu'acrobate dans cette école de cirque. Et à cette époque-là, il y avait cette émission, effectivement, de Sydney qui passait à la télévision. Et on ne pouvait pas ne pas pratiquer le hip-hop. C'était comme quelque chose qui nous a tous touchés. Tout le monde dansait. Voilà. C'était effectivement comme un moment de mode, un moment important dans la société, donc très médiatisé. Et comme j'étais dans le cirque et comme j'étais acrobate, c'était presque naturel d'aller vers le hip-hop, parce que je venais du quartier, mais en même temps parce que j'adorais l'acrobatie. Et on sait que le hip-hop, c'est une danse d'abord très acrobatique. Donc le glissement s'est fait comme ça, très naturellement.
Ok,
celle que l'on va apprendre aujourd'hui, c'est bien sûr la plus facile. L'élan couché. Ok, je crois que maintenant, hein, tout le monde connaît. Mais déjà, bon, je vais t'expliquer. Si tu ne le sais pas, ok?
Et puis ensuite, les premiers projets, les premières chorégraphies se faisaient avec les copains, dont effectivement Kader Atou, où on mélangeait la danse hip-hop et le cirque. Et puis ensuite, tout a été très vite. Donc, comme je disais, Lyon, capitale de la danse, donc belle rencontre avec des personnalités de la danse. Jean-Marie Bide, qui dirigeait à l'époque le théâtre de la ville, Théo Argence à Saint-Priest. Et puis Guy Darmet, qui dirigeait la maison de la danse de Lyon et la Biennale. Donc toutes ces rencontres-là nous ont permis ensuite de s'approcher un petit peu des théâtres et des artistes. Et de fil en aiguille, on est passé de la rue à la scène, on s'est intéressé à la danse en général, au parcours des chorégraphes, voilà. Mais tout a été très vite. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était complètement naïf. Ça aurait été la house, on aurait été peut-être des houseurs, ça aurait été, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, pour nous, ça a été ce moment extrêmement fort et médiatisé par cette émission HOP présenté par Sydney.
Tu t'allonges en appui sur le flanc droit ou bien sur le flanc gauche. Sur le coude, le bras allongé dans le prolongement du corps. Comme ça.
Émission qui s'est achevée, mais vous avez quand même continué voilà, à inventer des figures. Comment ça se passait? Il y avait ce petit défi où chacun devait ajouter un style?
Alors tout au début, à vrai dire, on n'était pas regardé, le groupe de copains qu'on était, on n'était pas regardé réellement comme... On ne disait pas des danseurs hip-hop à l'époque, on disait des rappeurs. Donc, ça n'a rien à voir, mais on disait des rappeurs. D'ailleurs, c'est pour ça le nom Acro-Rap, Acrobatie Rap.
Acro-Rap, la première compagnie hein, que vous avez fait avec Kader Atou et d'autres.
Voilà, complètement. Donc on était des rappeurs, mais on n'était pas considérés comme les rappeurs parce qu'en réalité, on faisait 80% d'acrobatie et les 20% restants, on mimait quelques mouvements comme ça qu'on prenait, qu'on retenait à la télévision par les copains. Et effectivement, l'idée, c'était d'avoir déjà des mouvements de base. Mais ce qui nous intéressait le plus, et je crois que c'est pour ça qu'aujourd'hui, le parcours de Kader est celui qu'on connaît, et le mien voilà, est celui-là, d'être à Montpellier, dans un CCN, c'est parce que très vite, je pense qu'on a su prendre des risques grâce à ce qu'on a vécu au cirque. C'est-à-dire qu'on ne présentait pas un hip-hop qu'on connaissait, c'est-à-dire de démonstration, simplement s'arrêter à la prouesse, être meilleur que l'autre parce qu'on fait un peu plus de tours sur la tête. Ce n'était pas trop ça qui nous intéressait, même s'il y avait de ça, parce qu'il y avait toujours l'enjeu du défi et d'être meilleur que l'autre. Mais nous, quand même, là où on s'est tout de suite concentré, c'était de faire du spectacle. Et comment on faisait? Parce qu'on avait trois fois rien, c'était dans la rue, alors on chipait un tapis dans un gymnase par là, on nous prêtait une perruque par là, on a une paire d'échasses ou une massue pour pouvoir jongler. Donc on mélangeait un peu tout. Mais ce mélange-là, je crois que ça nous a permis d'être repérés très vite par les professionnels parce qu'on montrait une danse un peu originale, un peu de hip-hop, un peu de cirque, ce qui ne se voyait pas à l'époque. Et grâce à ça, je pense qu'on est sorti du lot. Et ça nous a fait beaucoup de bien très vite, beaucoup de bien parce qu'il y a eu une visibilité pour nous, pour le hip-hop aussi, parce que petit à petit, on disait, bah tiens, le hip-hop, il peut être autre chose. Il peut se danser sur un Mozart, il peut se danser pas simplement en salopette, baggy, mais il peut se danser peut-être avec un costume qui n'a rien à voir, peut-être. Et je crois que ça a déclenché plein de choses dans le milieu de cette danse à cette époque-là. Donc il y avait évidemment ce petit truc un peu artistique, mais bien sûr, et ça, il ne faut pas l'oublier de le dire, et nous, on s'en rendait pas compte à l'époque, il y avait ce truc très social, c'est-à-dire c'est un Mourad, c'est un Kader qui vient d'une banlieue, plutôt qu'ils aillent casser une bagnole, vaut mieux qu'ils soient en train de danser sur le parvis de l'opéra ou du théâtre ou dans le théâtre. Donc pour certains, il y avait ce truc social. D'ailleurs, notre premier soutien financier, c'était le FAS, le Fonds d'Action Sociale. 3 francs 6 sous pour acheter un semblant de costume. Et voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. Je ne vais pas renier cette histoire-là. Je suis né en France, je me sens français, j'ai des origines, j'ai grandi dans un quartier, ça je ne l'ai pas choisi. Donc du coup, finalement, on a pris le meilleur de tout ça. Le meilleur, c'était de construire une histoire avec ce qu'on avait dans les mains, la rue, le hip-hop, le cirque. Et puis, vraiment, tout a été très vite. Donc aujourd'hui, je peux parler d'un conte de fées parce que 20 ans, c'est pas grand-chose, finalement. 20 ans, se retrouver à la tête des CCN, on sait qu'il n'y en a que 19. Et quand on sait que les deux garçons qui ont grandi dans les rues de Saint-Priest se retrouvent, donc je crois que ça démontre tout ce que je viens de raconter, ces belles rencontres, ce mélange, ça démontre que ça a eu un impact dans l'histoire de la danse et surtout l'histoire du hip-hop, je pense.
Ok, on va être parti pour 10 minutes maintenant.
Donc, ils regardent là-bas sur le plan, on regarde Manique, ils ont pas choisi leur plan tous les deux. Ok.
Il y a sans doute une question qu'on vous pose souvent, ou en tout cas une distinction qu'on révèle, c'est la différence entre ce hip-hop que vous dites spectaculaire, qu'on peut retrouver dans les battles, et ici à Montpellier, on est dans une ville de battles, hein, parce qu'il y a les championnats du monde qui sont organisés tous les ans, et puis le hip-hop qu'on retrouve chez vous, chez Kader, c'est-à-dire un hip-hop qui est métissé avec de la danse contemporaine. À chaque fois, quand vous venez ici à Montpellier, le public est ravi. Enfin, les gens applaudissent. À chaque fois qu'on va à un battle, le public est ravi, les gens applaudissent, tout le monde est content, mais ce n'est pas le même public. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous aimeriez rapprocher, ces deux publics ?
C'est une bonne question, mais juste peut-être avant de parler des publics, ce que je peux dire sur finalement cette force qu'a le hip-hop aujourd'hui en France, parce que ce n'est pas le cas de partout, c'est-à-dire qu'il a su évoluer sur scène avec une démarche comme Kader, comme Farid, comme Rahim, comme Anthony, comme d'autres, c'est-à-dire plus artistique, plus sur des questions, parfois d'engagement, de ce que j'ai envie de raconter avec ce vocabulaire, avec cette histoire. Et c'est sur scène. Effectivement, ça touche un public plus de théâtre, hein, même s'il a évolué malgré tout. En 20 ans, quand on voit le public qu'il y avait dans les théâtres il y a 20 ans, et le public qui a un petit peu bougé, mais il faut continuer à se battre pour ça, mais qui a un petit peu bougé, c'est-à-dire qu'on a eu un nouveau public par rapport à nos propositions, le fait qu'il y a effectivement peut-être une danse plus accessible, peut-être une danse plus actuelle, peut-être... Donc ça, c'est intéressant de voir comment le public a évolué en 20 ans. Après, il y a effectivement les battles qui aussi... fait évoluer la danse hip-hop d'une certaine manière, c'est l'esprit sportif, la compétition, on retrouve l'essence de cette danse, le brut, le spectaculaire bien sûr, et la technicité. Et donc du coup, finalement, on a une danse hip-hop qui est complète et complémentaire entre la rue, les battles et ce qui se passe sur scène. Et effectivement, on se rend compte que ceux qui sont dans les battles sont souvent un public plus jeune. Bah parce qu'il y a ce côté sportif, démonstratif, chaud aussi, donc ça attire forcément un autre public. Mais pour nous, chorégraphes, quand on fait des auditions, c'est un vrai bonheur de voir dans nos auditions justement ces danseurs qui viennent des battles. Et d'année en année, on se rend compte que la danse, elle évolue tout le temps, tout le temps. Donc ça, c'est très très bien pour l'évolution de la culture hip-hop. Après, c'est vrai que pour les publics, il y a encore un travail à faire, même si on n'est pas dos à dos. C'est-à-dire que moi, je vois des fois, après les spectacles qu'on présente dans les théâtres, des danseurs qui font des battles, qui viennent des battles. Ils sont une minorité, certes, mais il y a quand même quelque chose qui rallie ces deux mondes. Et ce qu'il faut maintenant continuer à faire, c'est peut-être d'imaginer des temps où on partagerait des moments plus artistiques et en même temps des moments de battle. Et là, on aurait un brassage comme ça qui pourrait être intéressant. Parce que moi, ça me plaît énormément de voir des jeunes qui sont intéressés par le hip-hop seulement pour le côté prouesse et énergie, venir au théâtre et à un moment s'asseoir et regarder un spectacle de danse qui n'est pas simplement basé sur la prouesse, mais avec une certaine poésie, avec un engagement, etc. Socialement, ça peut être très fort parce que là aussi, beaucoup de ces jeunes qui vont dans les battles, une grande majorité viennent des quartiers et une grande majorité ne vont pas forcément voir une programmation danse Festival de Montpellier. Et donc, moi, mon rêve et mon bonheur, c'est de voir justement que ce public-là, petit à petit, vient voir des fois des spectacles dans le festival. Mais il faut continuer, effectivement. Et ça, c'est à nous, acteurs du hip-hop, justement, de réfléchir à toutes ces questions-là pour imaginer des temps un peu originaux pour rapprocher ces deux espaces. Je ne vais pas dire ces deux mondes. Parce qu'encore une fois, moi, je vois dans ma dernière création, Yojiti, certains danseurs font encore des battles et côtoient encore ce milieu-là. Et donc, c'est pas comme s'il y avait un coup de ciseau entre les deux. C'est juste qu'effectivement, il faut renforcer ces allers-retours et des artistes et du public, bien sûr.
thinking of a master plan. Cause ain't nothing but sweat inside my hands. So I dig into my pocket all my money spent. So I dig deep up, still coming up with lint. So I start my...
Alors Mohan Merzouki, quand on parle de vous, on dit, mais voilà... c'est la preuve vivante qu'il a mondialisé le hip-hop, parce que vous allez partout dans le monde. Et vous l'avez dit tout à l'heure, hein, la culture hip-hop n'est pas du tout la même dans chaque pays. Et vous êtes peut-être un témoin privilégié, finalement, de voir si la France est vraiment particulière, si l'histoire du hip-hop est liée à son histoire, à l'histoire de l'immigration, à l'histoire des quartiers. Et si ça, vous le voyez ailleurs ?
De manière générale, aux quatre coins du monde, bien souvent, ceux qui pratiquent le hip-hop, ce sont souvent des danseurs qui ne sortent pas du conservatoire. Ils viennent de la rue, ils revendiquent un certain nombre de choses par rapport à leur vie, à la société dans laquelle ils évoluent, etc. etc. Donc ça, c'est lié à la culture hip-hop de manière générale. Donc on retrouve ça de partout. Après, donc cette question d'immigration, cette question de place qu'on peut avoir dans la société, donc on l'exprime par la danse. Je vois au Brésil par exemple, il y a cette espèce de rage, on vient des favelles et on choisit la danse plutôt que le flingue pour s'exprimer, donc ce truc-là, on le trouve de la même manière partout. En fait, ce qui fait la particularité de la France, c'est qu'en fait, il y a très longtemps, très vite, les institutions se sont intéressées à cette danse, ont ouvert leurs portes, ce que je racontais tout à l'heure. C'est-à-dire que très très vite, nous qui venons du hip-hop, on s'est retrouvés confrontés à l'art en général, aux chorégraphes contemporains, aux plasticiens, aux scénographes, aux musiciens, etc. Et donc, ça a été notre école. C'est-à-dire que ça nous a poussés consciemment, inconsciemment, par désir, à être dans l'acte créatif, à sortir de la rue, à se poser des questions. Pourquoi je danse? Pourquoi je fais du hip-hop? Qu'est-ce que j'ai envie de raconter? Quel public j'ai envie de toucher? Donc il y a cette question, bien sûr, liée à l'artistique et cette question liée à la société. On se rend compte que de danser dans un théâtre, de danser loin du quartier, c'est aussi une façon pour nous de comprendre un peu mieux qui on est et quelle place on a dans la société. Et tout ça fait que le hip-hop est devenu ce qu'il est là aujourd'hui en France. Un hip-hop reconnu par la profession, par le public. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on voit moins ailleurs. Parce que dans les autres pays, il n'y a pas eu ce déclic des institutions. Et quand on voit le hip-hop, de manière générale, il est dans la rue. Donc forcément, très pauvre dans le sens où on voit ce qu'on voyait il y a 20 ans. Le ghetto blaster, les mecs qui tournent un par un, avec certes des techniques très très fortes. Enfin, on a des danseurs assez incroyables de partout. Là-dessus, chapeau bas. Mais par contre, malheureusement, il n'y a pas cette évolution artistique. L'exemple qu'on peut donner de la France, c'est ça. Après, le fait de présenter mon travail un peu partout dans le monde, ce que j'espère, mais je pense que c'est ce qui est en train de se passer petit à petit, parce que quand je retourne dans un pays, il y a comme un déclic qui se passe du côté des institutions. Il va y avoir un programmateur de théâtre qui va dire « j'ai un groupe local là, qui vient de tel ou tel quartier, je vais un peu le soutenir, je vais lui ouvrir mes studios, pourquoi pas ?» Finalement, l'exemple français, on peut peut-être s'y appuyer. Et puis des fois, j'ai le bonheur de voir, en arrivant dans un pays, de dire « tiens, la compagnie elle a une fois par semaine le studio, ou alors elle a 3 francs 6 sous pour monter un show, ou alors elle va faire la première partie d'un spectacle qui vient de France. » Et je trouve ça très fort et très intéressant pour l'avenir de la danse hip-hop. Parce que ce qu'il faut espérer, c'est que justement tous ces danseurs qui gravitent un peu partout dans le monde pourraient proposer des spectacles un peu inattendus pour nous ici en France. On pourrait les accueillir ici en France. On pourrait avoir encore une autre vision, une autre approche du hip-hop, parce qu'il vient du Mexique, parce qu'il vient d'Afrique du Sud, parce qu'il a été travaillé en fonction de leur histoire, leur sensibilité et tout ça. Je reste ouvert sur le monde parce que j'apprends beaucoup, et dans mon travail de chorégraphe, et aussi dans le regard que je peux porter sur la société française et ma place que j'ai ici en France. On sait que ce n'est pas toujours facile, on voit bien l'actualité. Voilà, je garde espoir grâce à tous ces échanges, ces va-et-vient que je fais avec le reste du monde. Ça permet de prendre du recul et peut-être d'essayer de proposer soit sur scène, soit dans des moments, dans la rue, parce que je continue encore à danser dans la rue, je continue encore à faire des projets avec les habitants, parce que j'aime ça, je suis passionné, et que je me dis que c'est peut-être de cette manière-là qu'on intéresserait ce public-là à la danse et à l'art en général.
I was a fiend. Before I became a teen, I melted microphones instead of cones of ice cream. Music orientated, so when hip hop was originated, fitted like pieces of puzzle, complicated. Cause I grab the mic and try to say yes, y'all. They try to take it and say that I'm too small. Cool, cause I don't get upset. I kick a hole in the speaker, pull a plug, then I jet.
Il y a une pièce qui s'intitule Terrain Vague. Il y a aussi Box Box hein, qui revient sur le côté boxeur, parce que vous avez été aussi boxeur en plus d'être circassien et donc danseur de hip hop. Voilà, vous cumulez. Donc Terrain Vague, pour vous, c'était un lieu où en fait vous alliez vous abandonner, vous faisiez tout un tas de choses. Et la question que je me pose, c'est finalement, est-ce que ça a été simple dans votre famille alors d'accepter que vous soyez danseur et ensuite chorégraphe? Enfin, quel regard ils avaient?
Alors non, ça n'a pas été si simple en réalité. Je ne suis pas issu d'une famille de spectacle. En fait, la chance que j'ai eue, c'est que mon père, à l'âge de 7 ans, voulait que je fasse des arts martiaux. Les arts martiaux, c'est peut-être un peu plus proche de l'histoire de notre culture d'origine, je sais pas. En tout cas, quand on va dans les pays du Maghreb, les films autour des arts martiaux, on connaît, on voit. Enfin, c'est quelque chose qui est pas étranger. Et je sais pas. En tout cas, mon père a voulu que je fasse du karaté. On va lui poser la question pourquoi. Il disait souvent, c'est pour que tu te défendes. La vie est dure, mon fils. C'est pas facile. Et voilà, je pense que c'est un peu ça. Donc, complètement par hasard, l'école, ce club dans lequel il m'a inscrit, il y avait les week-ends des propositions de cours de cirque, voilà. Et en fait, j'y allais au départ sans parler à mes parents. J'étais pas brillant à l'école, et donc évidemment, si je disais, je passais mes week-ends et mes vacances scolaires au cirque, là, ça aurait été difficile. Il aurait certainement pas accepté. Par contre, quand je lui disais que j'avais une compétition de karaté ou de boxe, là, c'était feu vert. Il ouvrait tous les verrous et ça, c'était très bien. Et donc, c'est vrai que j'ai fait pendant presque 10 ans un peu comme ça, cette espèce de jeu avec notamment mon père. Ma mère, c'était pas le même rapport, mais mon père, effectivement, il était très... voilà, c'était des arts martiaux, d'accord, mais le reste, je veux pas en entendre parler. Et je m'en suis rendu compte d'ailleurs la fois où de la machine à laver, ma mère sort un costume à étoiles et là, il a compris qu'il y avait quelque chose qui était un peu...
Alors tu veux faire danseur?
Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça?
Qu'est-ce qu'il y a de mal à être danseur?
C'est parfaitement normal.
Parfaitement normal.
J'ai fait de la danse dans mon jeune temps.
Tu vois?
C'est normal pour ta grand-mère. Pour les filles. Mais pas pour les garçons, Billy. Les garçons font du football ou de la... boxe ou du catch. Mais ils veulent pas devenir danseurs de ballet. Tu comprends ce que je veux dire?
Mais en même temps, il a fallu quand même 10 ans pour que petit à petit, il y ait un rapport de confiance. Parce que faut dire, les parents en banlieue, c'est dur aussi. Enfin, surtout à cette époque-là, aujourd'hui je ne saurais pas dire, mais à cette époque-là, il y a cette peur que les enfants tournent mal, ils sont sans arrêt confrontés à ce qu'on sait, c'est pas toujours simple, et donc de rentrer tard le soir ou de découcher, c'est tout de suite l'inquiétude, parce que c'est pas facile. Et donc, il a fallu 10 ans pour que petit à petit, il se rende compte que je rentrais pas à la maison bourré, il n'allait pas me chercher au commissariat ou je sais pas quoi. Et puis petit à petit, il a commencé à laisser les choses faire. Et puis on a un petit papier, 3 lignes dans le journal local pour dire qu'on est en photo avec le maire. Donc évidemment, vous imaginez, ça devient tout de suite la fierté. Mais il a fallu du temps. Voilà, il a fallu du temps. Il a fallu. Je pouvais pas. De manière brute comme ça, m'asseoir devant mon père dans la cuisine et lui dire « Écoute, papa, je fais de la danse. » Là, c'est sûr que ça aurait été difficile. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Il a fallu du temps et pour qu'il accepte. Aujourd'hui encore, il ne dit pas que je suis danseur. Il dit « Je fais le spectacle » ou il redit encore « Je fais de la boxe » et ça lui va très bien. Mais voilà, mais après, je ne peux pas lui en vouloir parce que dans la culture du Maghreb, la danse, c'est déjà, c'est pas un métier. Et puis en plus de ça, il y a tout ce truc tabou lié au corps, etc., etc. Donc ils connaissent pas assez pour se positionner. Puis à le regard des autres, donc il a fallu du temps. Et puis ce qui les a rassurés, effectivement, c'est de voir que les retours des voisins d'abord, puis après des médias, puis etc., étaient positifs, étaient valorisants, étaient encourageants. Et tout ça a fait qu'il a fini par accepter, voire même encourager, accompagner Mais ce qui ne me surprend pas, ce qui ne m'étonne pas, déjà je vois en France que les copains qui sont français de souche, quand il fallait dire qu'ils sont danseurs, hein, c'est compliqué. Donc vous imaginez, ça, c'est encore un peu plus compliqué quand on est issu d'une famille originaire du Maghreb, c'est sûr. By the same stylist, in the same group. Terminator X, the DJ, and... Call him just play. Vous avez créé votre compagnie en 95, la compagnie Cafig. J'imagine que les spectacles, plus vous avanciez, et puis quand vous êtes devenu directeur du CCN de Créteil, forcément vous avez eu peut-être plus d'argent, plus de financement, donc peut-être plus d'ambition. En tout cas, ce qui est tout à fait notable, c'est que quand on regarde BoxVox, quand on regarde UGT, il y a vraiment un sens du spectacle, de l'esthétisme, une scénographie plutôt renversante, voilà, même si pour BoxBox c'est beaucoup plus, vous jouez beaucoup plus sur le burlesque, mais par exemple UGT, on a l'impression que vous vous permettez tout, c'est un vrai plaisir et ça va continuer, mais quand est-ce que ça peut s'arrêter finalement, ça?
C'est une bonne question, enfin, en tout cas c'est une question que j'évite de me poser parce que je pense que je suis comme le reste, enfin tous les artistes de manière générale, les chorégraphes, on est un peu comme des éponges. Là, je termine UGT, donc j'ai un peu tout pressé, il n'y a plus rien. Et après, je la laisse se remplir et elle se remplit. Je pense grâce au fait que je reste attentif à ce qu'il y a autour de moi, aux rencontres. J'essaye de me nourrir à chaque fois de ce que je vais vivre. Et c'est ça qui fait qu'à un moment, je remplis petit à petit la page blanche. Donc aujourd'hui, alors où l'on parle, c'est difficile de parler de ce qui va se passer dans les années à venir. Mais enfin, en tout cas, j'ai toujours essayé d'être dans cet état d'esprit, c'est-à-dire de ne pas être dans une espèce de recette que je reproduis dans mes spectacles, mais de me dire toujours le challenge à venir. Tiens, j'ai rencontré, tel musicien, tel danseur, je sais pas. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'inconnu, de l'ordre du risque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je peux un peu plus me le permettre qu'il y a quelques années, même s'il y a toujours l'inquiétude, bien sûr. Mais en tout cas, j'ai toujours ce besoin d'aller me frotter vers d'autres univers artistiques. Parce que ça m'excite, c'est ce qu'ont les artistes à un moment. C'est l'inconnu, mais en même temps, c'est aussi pour ça qu'on fait ce boulot. Surtout quand on a un bel accueil après, on est ravis, on est heureux de voir justement que ça a suscité de l'émotion, parfois de la joie, de l'interrogation peut-être, et voilà. Mais enfin, en tout cas, je suis sur ce chemin d'essayer d'emmener le hip-hop à chaque fois ailleurs, et voilà, comme je l'ai fait avec BoxBox, c'était aussi un projet pas simple, parce que c'était de rapprocher la boxe et la danse. Je savais pas si justement j'allais trouver la bonne articulation, puis en plus avec des musiciens classiques sur scène, UGT, d'avoir des corps de danseurs contemporains, et puis en plus de Taïwan et tout ça. Donc c'est vrai que je ne savais pas ce que ça allait donner, mais le pari que je me lançais, c'était de pouvoir essayer de trouver comme ça un lien entre les danseurs de hip-hop et contemporains. Voilà, donc à chaque fois, je me lance comme ça ces défis-là, et c'est ce qui est passionnant dans mon métier. Après, je ne saurais pas dire combien de temps j'aurai cette énergie-là, parce que c'est pas toujours facile, c'est vrai, mais ce qui vient de se passer ici à Montpellier, par exemple, ça remplit l'éponge pour repartir vers d'autres aventures.
Montpellier entre dans la danse. Chorégraphes, danseurs et festivaliers sont sur Divergence.
La culture est en de bonnes mains, m'a-t-on dit.
Ce processus obsessif, c'est du fromage.
C'était un entretien avec le chorégraphe et directeur du CCN, du Centre chorégraphique national de Créteil, Mourad Merzouki. Pour apercevoir son travail, eh bien le mieux, c'est de se rendre au théâtre, mais vous pouvez aussi vous rendre sur le site web de sa compagnie Cafig, www.cafig.com. Thank you.